Bonjour, M. Alvec-Lémy-Lès, bonjour.
Bonjour et bonjour aux auditeurs.
Alors, la terre bouge depuis quelques jours aux alentours d'Alger, pour être précise, à Chebli, Hammam El-Ouen, Bouinène, du côté de Blida. Que se passe-t-il exactement, M. Lémy-Lès? Que justifient ces secousses ces derniers jours?
Ces secousses traduisent l'activité sismique que connaît le nord de l'Algérie tout le long de l'année. Et comme nous l'avons dit souvent, que cette activité sismique trouve son origine dans le rapprochement des plaques africaines et eurasiatiques. Donc cette activité se traduit tout le long de l'année par tout un certain nombre de secousses qui touchent aussi bien la région est que ouest, et essentiellement concentrée dans la région nord. Donc ce qui se passe actuellement dans la région de Hammam El-Ouen Chebli ne fait que traduire cette activité et l'activité de la région centre, qui d'ailleurs avait connu au mois d'août également une secousse qui s'était produite en mer.
Alors, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait autant de secousses en quelques jours dans cette région, même si certains chercheurs affirment que la Terre bouge en moyenne 80 à 100 fois par jour? Certains parlent aujourd'hui, certains chercheurs, c'est-à-dire du contact de l'eau froide avec l'eau chaude souterraine au niveau de cette région. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on doit mettre de côté toutes ces croyances auxquelles nous sommes en train d'aujourd'hui de nous livrer, M. Yelles?
Alors, votre question nous interpelle sur plusieurs volets. La première, c'est que effectivement, dans une zone, lorsque vous avez tout un certain nombre de secousses, alors vous avez donc la secousse principale et donc ce que l'on appelle le phénomène de réplique. Par rapport à un phénomène physique qui est ce qu'on appelle la rupture sismique, vous avez un événement et puis l'événement se produit et continue à se produire. Donc parfois pendant plusieurs jours ou quelques semaines, parce que la cassure ou la rupture continue à se produire en dégageant essentiellement donc l'énergie par rapport aux chocs principaux et puis par rapport aux répliques par rapport à l'énergie restante. Ensuite, on essaye de comprendre ce phénomène de cassure, de rupture, de faille. Alors pour nous, effectivement, c'est de la physique, c'est de la mécanique des roches, puisque nous avons une zone où se sont accumulées des contraintes, ce qu'on appelle des contraintes tectoniques. Et ces contraintes, à un certain moment, s'accumulent sur une zone, sur une faille. Et au-delà d'un seuil, la faille va jouer, et ce qui va entraîner. Par contre, maintenant, parler de circulation, je veux dire, dans d'eau et dans ces régions, ça reste pour l'instant de simples supputations. Pour l'instant, nous n'avons aucune relation directe par rapport. Donc, faire des avancées comme ça, je veux dire, de cette nature, relève plutôt de supputations scientifiques, parce qu'il faut, pour nous, scientifiques, il faut des validations scientifiques. Cela va dans certaines croyances pour l'instant.
Alors, mais cette faille était-elle connue par le CRAG aujourd'hui?
Alors oui, tout à fait. Cette bordure sud de la région blidéenne est tout à fait connue, puisqu'il existe tout un certain nombre de segments de failles, comme partout ailleurs. Je veux dire, que ce soit dans la région centre, que ce soit dans la région ouest, dans la région est. Alors, pour revenir à vos croyances, effectivement, à l'époque, nous pensions que seule la région d'El-Asnam était concernée par l'activité sismique. Et puis après, peu à peu, on a découvert que toute la région, finalement, toute la région nord était concernée. Donc, finalement, parce que l'explication principale est là. C'est l'avènement de la tectonique des plaques qui nous a permis de réellement comprendre ce qui se passe et qui explique l'origine de cette sismicité essentiellement concentrée dans la région nord du pays.
Alors, la cartographie sismique est-elle définitivement aujourd'hui établie? Est-ce qu'on connaît région par région l'activité sismique?
Alors oui, grosso modo, nous le savons, puisque nous savons que l'activité sismique est essentiellement concentrée sur la partie dite thélienne, la région du Tell ou de l'Atlas thélien, avec sa partie marine et sa partie continentale. Et puis après, nous avons une activité qui est beaucoup moindre sur la région des hauts plateaux. Quelques événements sismiques essentiellement sur la bordure des hauts plateaux. Et puis après, quelques petits épicentres sur la région de l'Atlas saharien. Et puis la plateforme saharienne, ce qu'on appelle la plateforme saharienne, pas d'activité sismique parce que nous sommes à l'intérieur d'une plaque tectonique. Et puis nous avons effectivement, par rapport à nos travaux de recherche et par rapport à notre surveillance sismique, effectivement mis en relief la petite activité sismique qui concerne la région du Hoggar dans le sud, c'est-à-dire par rapport à la région du massif du Hoggar, effectivement, parce que c'est d'autres origines, c'est d'autres explications. Voilà, donc la cartographie est connue. Maintenant, à l'intérieur de cette région nord, nous faisons ce qu'on appelle des études de zonage. Alors, il y a des études où on va voir que certaines régions du nord de l'Algérie concentrent un peu plus cette activité que d'autres.
Mais justement, avec cette connaissance précise un peu des zones sismiques et des zonages, faut-il apprendre aujourd'hui à vivre avec le séisme ?
Alors, c'est tout l'enjeu, effectivement, puisque nous avons cette certitude scientifique que le nord de l'Algérie est concerné donc par cette activité sismique. Donc, nos efforts consistent à intégrer cette activité dans le développement de ce qu'on appelle développement durable par la problématique de la prise en charge de ce qu'on appelle le risque sismique avec toutes ses composantes, et puis intégrer effectivement, je veux dire, ce phénomène naturel qu'est le séisme dans toute l'équation du développement durable, alors dans tous les secteurs, essentiellement dans l'acte de bâtir, dans l'acte d'aménagement du territoire, dans l'éducation de nos enfants,
l'occupation,
l'aménagement du terrain, l'occupation du sol. Le SNAT qui a été réalisé intègre cette notion du risque, et avec effectivement la répartition des populations dans les régions nord. Effectivement, c'est tout l'enjeu actuel de la problématique de l'intégration du risque sismique dans le développement de notre pays.
Mais est-ce que c'est intégré aujourd'hui par rapport à ce que vous avancez aujourd'hui, M. Yelles, le cadre, par exemple, dans le bâti, dans l'occupation du sol, parce que ce qui est relevé aujourd'hui, c'est 4% seulement du territoire est occupé par les Algériens. Concentration sur le nord et les autres régions sont un peu moins occupées.
Voilà, donc encore une fois, votre question comporte plusieurs volets, puisque en fait, les premières notions de règles parasismiques avaient, je dirais même, introduites peut-être par les Turcs à l'époque, dans la construction un peu de la Casbah. Puis après, nous avons eu le séisme de 54 qui s'est produit à Orléansville, à l'époque dite Orléansville, qui avait permis d'avoir les premières règles parasismiques et qui avait permis de réaliser dans certaines zones du pays, les édifices selon ces règles. Puis après, vous savez, le tournant est essentiellement l'événement douloureux de la SNAM en 1980, douloureux effectivement pour les conséquences, mais il y a eu de grandes leçons qui ont été tirées, et les premiers règlements parasismiques ont commencé à voir le jour à partir de cette date. Le premier règlement algérien a vu le jour en 1981. Donc à partir, il a été repris ce code à plusieurs reprises, même après le séisme de Boumerdès, où on a amélioré encore les... Et ce qui fait que l'ensemble des constructions qui ont été réalisées publiques, qui ont été réalisées après 1980, tiennent compte de ce code parasismique qui intègre donc cette connaissance sismologique du nord de l'Algérie. Donc on n'est pas dénué, par rapport à ce phénomène, par rapport à ce risque. Il y a de grands efforts qui ont été réalisés pour l'intégrer. Maintenant, pour parler du volet de l'aménagement du territoire et de la répartition des populations. Alors oui, effectivement, tout l'enjeu est effectivement, et nos efforts sont concentrés sur la répartition plus ou moins égale de notre population sur la région nord. Alors, le SNAT avait parlé effectivement du développement, par exemple, de tout ce réseau autoroutier, de la répartition des nouvelles villes, Bouxoul et autres, par rapport au développement du rail et autres. Ce tissu d'infrastructures va permettre donc d'avoir une répartition, je pense, un accès rapide de toutes les zones et donc une meilleure répartition des populations, sauf que effectivement la période difficile qu'a connue le pays dans les années 90 a fait qu'il y a eu un exode rural massif et la concentration dans les grands centres urbains. Et nous espérons que dans les prochaines années, avec donc tout ce réseau d'infrastructures qui avait été dicté par le SNAT, effectivement, nous allons avoir le développement de nouveaux pôles urbains sur la région des Hauts Plateaux et le redéploiement des populations.
Monsieur Abdelkrim Yeles, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans deux petites minutes. À tout de suite. Alors, Monsieur Abdelkrim Yeles, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Alors, si je m'en tiens à vos propos, le règlement parasismique a été introduit en Algérie durant même la période coloniale?
Bah oui, tout à fait. Je pense que il faut se dire qu'on a eu connaissance de ces événements sismiques depuis quand même fort longtemps. Hein. Je veux dire, la première station, je veux dire, sismologique en Algérie date de 1910. Donc il y a eu des secousses et puis après il y a eu cet événement, je disais plus ou moins douloureux, d'Orléansville, qui a encore éveillé les consciences. Et donc des travaux déjà, des études avaient été menées à cette époque. Et donc oui, avec effectivement l'introduction de l'engineering et autres, les premières mesures parasismiques avaient été élaborées, je le disais, en 1955. Et donc oui, premières mesures déjà encore moyennement sommaire, peut-être moins élaboré que ce qui avait été fait plus tard, parce que il faut se dire que le génie parasismique a vu vraiment son essor également par tout ce qui s'est passé, je veux dire, aux États-Unis et au Japon. C'est là où réellement, je veux dire, on voit très bien à travers le monde, les méthodes de construction des années 20 ne sont pas celles d'aujourd'hui. L'édification des gratte-ciels aux États-Unis et au Japon, c'est de nouvelles techniques de construction, mais qui intègrent forcément, je veux dire, fortement la notion de génie parasismique et autres, pour pouvoir
Qu'il faut faire aujourd'hui en Algérie.
Eh ben là, nous avons des codes. Il faut absolument, effectivement, essentiellement intégrer, ces nouvelles méthodes de construction
pour les constructions,
pour les constructions publiques. Alors publiques, je vous dis, puisque les codes existent.
Pour les
particuliers. Donc la construction parasismique et l'intégration du génie est intégrée dans la construction publique depuis fort longtemps en Algérie, et tout ce qui est édifié depuis les années, 50-80 en notion d'édifice public intègre cette notion de GM. Par contre, le bas blesse au niveau donc du secteur privé. Là, effectivement, et c'est les grands enseignements que nous avons eus à l'époque par rapport au site de Boumerdès, où effectivement le gros des dégâts c'est essentiellement concentré sur le bâti privé des autoconstructeurs. C'est là où effectivement
Il faut être plus regardant.
Voilà, plus regardant. Et ça, c'est là par rapport à la réduction du risque sismique, effectivement, c'est l'implication du citoyen par rapport à cette notion de réduction du risque sismique et le pousser effectivement à suivre la réglementation parasismique pour les constructions individuelles ou bien l'expertise. Moi, je recommande vivement les autoconstructeurs ou les personnes privées à aller faire des expertises de leur construction privée. Je veux dire, des fois on dépense des sommes énormes à construire sa propre demeure individuelle. Et puis, il faut dépenser quelques milliers de dinars supplémentaires pour faire une expertise et voir si, effectivement, nous avons fait les choses correctement. Mais il faut le faire en amont, hein, avant de construire sa propre...
Mais l'expertise doit être effectuée aussi sur le vieux bâti aujourd'hui, parce que pour vous,
le plus important,
c'est de préserver le bâti.
Alors, tout à fait, je veux dire, là, les actions des pouvoirs publics, effectivement, sont concentrées sur l'expertise du vieux bâti et essentiellement de pouvoir trouver les solutions pour des solutions de confortement ou de réhabilitation de ce vieux bâti. Ça, c'est...
Et
de
une action manière, urgente, c'est... selon vous, aujourd'hui, monsieur Yeles, parce que certains, aujourd'hui, prédisent un séisme dévastateur.
Alors, non, mais il faut être réaliste. Cette problématique du vieux bâti existe un peu partout, à travers le monde. C'est la même préoccupation, par exemple, par rapport au vieux quartier de Nice, en France, où les vieux quartiers, toutes les médinas, autour de la Méditerranée, effectivement, ont la même préoccupation. Vous avez d'anciennes... Vous savez, la Méditerranée, le berceau des civilisations, vous avez des cités anciennes qui datent de près de 2000 ans, 3000 ans. Donc le problème, c'est de conserver ce patrimoine historique et donc d'arriver à trouver des... Alors oui, par rapport à des actes de préservation, il faut absolument... Le bâti a une durée de vie, donc il faut le protéger. Donc il y a des actions simples, même le nouveau bâti, déjà il faut introduire, il faut absolument le protéger parce qu'il y a une usure. Et plus vous maintenez le bâti dans le temps, mieux ça vaut. Des actions simples, moi je pense qu'il s'agit de réhabiliter la fonction. Effectivement, peut-être on avait vu différemment, mais les conciergeries jouent un rôle énorme, par exemple, dans la préservation du bâti par rapport à l'entretien des câbles, par rapport à l'entretien. Par contre, il y a des actions beaucoup plus importantes. C'est le reconfortement de certaines
fondations.
Confortement par rapport à certains immeubles qui présentent une forme de fragilité, puisque vous avez un classement qui est fait. D'ailleurs, par exemple, sur la région d'Alger, cette expertise du vieux bâti a été faite. Voilà, a été faite, effectivement. Et nous avons une banque de données qui est là. Et donc, il y a lieu d'avoir ce programme d'approche par rapport...
Il faut la mettre en œuvre.
Il faut la mettre en œuvre.
Alors, aujourd'hui, justement, par rapport à ce vieux bâti, vous avez beaucoup aussi de chercheurs qui prédisent un séisme dévastateur. S'il devait arriver, la capitale serait paralysée. Je prends comme exemple Alger. Hein. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on doit croire à cela aujourd'hui, monsieur Yelles?
Écoutez...
Même si on sait qu'on ne peut pas prédire un séisme.
Ce que l'on sait, c'est que au cours de l'histoire, les événements qui ont touché la capitale ou la région nord se comptent les séismes importants. C'est pour ça
celui
que
de 1716.
Les événements importants qui se sont produits sur la région nord se comptent sur le bout des doigts. Il n'y en a pas eu énormément. C'est pour ça que. Et par contre, ce qui est important, c'est un peu plus important, c'est l'ombre de séismes modérés ou les petits séismes. C'est pour ça que l'on classe la région nord de l'Algérie comme une région dite modérée, à sismicité modérée, en comparaison d'autres régions comme le Japon ou l'Indonésie ou toutes les régions ce qu'on appelle circumpacifique, où là, effectivement, nous avons l'explication de grandes zones sismiques où se produisent d'importants séismes. Le Japon en est une et autres. En Algérie, je veux dire, sur les régions nord, les séismes importants sont plus ou moins espacés. Donc, sur la région à centre du pays, par exemple, Alger existe depuis Icosium, donc lorsqu'on va voir un certain nombre d'événements dits majeurs dans le cours de l'histoire, d'abord on peut avoir des événements moyennement importants parce que le type de bâti n'était pas tout à fait le même. Donc par contre, nous avons cette certitude que la région nord est sismique, il faut en tenir compte. Voilà.
Mais on parle d'un séisme dévastateur.
Écoutez, je veux dire, ça c'est une probabilité qui est plus ou moins très inférieure par rapport à l'occurrence des séismes modérés. Donc je préfère m'atteler par rapport à l'existence de séismes mineurs ou modérés qui prouvent que nous avons une sismicité. Alors à nous, par rapport aux mesures que nous venons, application du règlement parasismique par rapport à la préoccupation du vieux bâti, de pouvoir vivre tout à fait normalement par rapport à ce phénomène naturel. Voilà.
Mais justement, avec ces secousses, et ces secousses ont généré beaucoup de croyances, chacun y va avec ses explications et ses croyances, on arrive même à faire une corrélation chaleur-séisme. Est-ce que c'est vrai, monsieur Yelles?
Alors moi je vous dirais que les séismes se produisent un peu partout à travers la planète. D'abord ils se produisent sous l'eau. Bon, d'abord en profondeur les plus extrêmes. Je veux dire, ils se produisent dans les régions polaires, dans les régions polaires, les régions froides. Mais tout à fait, je veux dire. Le séisme obéit à des lois internes, à des contraintes tectoniques internes à la planète. Tout ce qui se passe à l'extérieur du point de vue météorologiques et autres, c'est des circulations de masse d'air. Les événements sismiques se produisent tout le long de l'année. Vous voyez, on parlait avant d'octobre, de croyances par rapport au mois d'octobre. On parlait de certaines croyances qui pouvaient être supputées par rapport à des aspects liés à une région bien précise, à la SNAM. Nous avons des instruments, un réseau sismologique et des publications scientifiques. Nous ne faisons pas tellement dans la boule de cristal, madame, parce que je pense que dans la voyance, et on laisse soin à d'autres personnes de le faire et de pouvoir, avancer certaines croyances, quoi, je veux dire, peut-être.
Alors, certains disent aussi qu'avec la configuration urbaine actuellement au niveau de certaines grandes agglomérations comme Alger, Constantine, Oran et d'autres villes également du territoire national, s'il devait survenir un séisme d'une grande magnitude, tous les secteurs stratégiques seraient paralysés. Ils ne pourraient pas intervenir. Est-ce qu'il faudrait penser aujourd'hui, par exemple, à sortir les secteurs névralgiques, comme celui, par exemple, de l'intérieur, de la protection civile, hors de ces zones urbaines aujourd'hui?
Oui, alors, je peux vous dire que là, ça fait partie, effectivement, de toutes les stratégies de redéploiement et de des activités stratégiques par rapport à peut-être la répartition, je veux dire, au travers des grands centres urbains, des grandes centres, à travers tout le territoire national. Donc ça existe, et c'est prévu. Maintenant, effectivement, le grand effort, c'est de désengorger, par exemple, les grands centres urbains. Et ce que vous voyez, le redéploiement vers d'autres villes nouvelles et autres font partie déjà de cette réflexion de pouvoir avoir des centres névralgiques de repli en cas d'événement et d'occurrence dans certains centres urbains. Donc ça, c'est prévu et c'est réfléchi et c'est envisagé.
Alors vous dites qu'il faut apprendre aujourd'hui à vivre avec le séisme. Le séisme, se comporter face à un séisme, c'est un apprentissage. Est-ce qu'il faut introduire certains modules au niveau, par exemple, des classes à l'école? On a vu les gens, la dernière fois, le dernier séisme du mois d'août, les gens se sont carrément jetés des fenêtres de leur bâtiment.
Alors, bon, tout à fait, ça fait partie de la problématique de cette stratégie de la réduction du risque sismique. Je veux dire, nous utilisons beaucoup les médias, le CRAG, je pense, est assez médiatisé par rapport à ce phénomène naturel.
Il y a M. Risque Majeur aujourd'hui qui dit qu'il faut l'apprendre.
Oui, tout à fait. Donc, vous savez, je veux dire, ce rapprochement par rapport au secteur de l'éducation existe depuis fort longtemps. Maintenant, c'est le réellement toucher le maximum d'abord de personnes et de citoyens par différents canaux. Les médias jouent un grand rôle. Nous, l'existence et l'occurrence répétitive de secousses font que nous intervenons beaucoup, à travers les médias, et nous avons édicté souvent
un
comportement à suivre, et il est clair que la panique va rajouter et cet affolement, alors qu'effectivement la plupart du temps ce sont des secousses modérées à faibles. Donc il s'agit effectivement de savoir que le pays est sismique et que un simple comportement peut éviter effectivement d'avoir peut-être des effets néfastes qui sont constatés encore, mais le citoyen doit avoir à intégrer cette notion d'activité sismique et de phénomène sismique par rapport à son comportement.
Alors très rapidement sur cette question, souvent quand il y a par exemple une secousse, le premier réflexe que nous avons, c'est de sortir de chez soi. Alors qu'on dit que les escaliers, c'est les espaces les plus vulnérables.
Je vous dis encore une fois, puisque la plupart du temps ce sont des secousses modérées. Maintenant je vais vous dire, si vous êtes sur un rez-de-chaussée, vous êtes proche d'une sortie, il n'y a pas de souci, il faut y aller doucement, pas de souci. Bah, bon, ça c'est un comportement. Par contre, si vous habitez à partir du troisième, quatrième étage, vous savez que la case d'escalier est une zone fragile. Je vous dis, généralement, les secousses sont tout à fait modérées à faibles. Donc, vaut mieux rester à l'intérieur par rapport à... Parce que vous n'avez pas le temps de sortir et vous allez vous précipiter soit au niveau des balcons qui sont des zones fragiles, soit dans les cases d'escalier. Donc rester dans un coin près d'un pilier de son appartement et nous serons un peu plus en sécurité que par rapport au fait d'essayer de pouvoir sauter du quatrième étage, et c'est là où on constate les plus grands dégâts. Et donc il faut réellement se dire que donc le comportement est plus rassurant de par rapport, lorsqu'on est en étage, d'être à l'intérieur de chez soi et loin des zones vulnérables.
Monsieur Abdelkrim Yeles, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, et je souhaite un bon week-end à tous les auditeurs. Bonne année également, parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas l'invité de la rédaction. Je reprendrai avec les auditeurs à partir du 4 janvier prochain. En attendant, bonne année et à bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.